Eh bien, nous voilà de retour, virtuellement, dans la salle du musée où est conservé le retable. C'est dommage, il vous manquera le froid l'hiver ou la fraîcheur l'été quand vous pénétrez dans ce lieu. Et puis surtout, il vous manquera ce souffle court, cette émotion qui vous étreint quand vous êtes au pied de ce monument. Les panneaux qui suivent, très colorés et lumineux, devaient offrir un instant de sérénité aux pèlerins et malades présents à Eisenheim. Dans l'Annonciation, Grunewald illustre brillamment l'évangile de Luc, qui donne beaucoup de précisions sur cet instant où la Vierge Marie reçoit la visite de l'archange Gabriel lui annonçant que le Seigneur l'a choisi. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » La jeune adolescente marque un léger mouvement de recul naturel face à cette apparition et à l'attitude et à la physionomie autoritaire de cet ange aux vêtements rouges et or. La scène se situe dans le cœur d'une église baignée de lumière. Se devine à peine sous la voûte une colombe. Elle symbolise l'Esprit-Saint venant du ciel qui descend vers la Vierge. Celle-ci était juste en train de lire un livre agenouillé devant un coffre où est posé un livre ouvert où se lit encore cette phrase en latin du prophète Isaïe. « Voici la jeune femme, elle porte un fils, elle va enfanter et crier son nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » La sculpture en marbre d'Isaïe, prophète de l'Ancien Testament, est justement placée au cœur du décor de la voûte. Il contemple la scène et annonce les deux autres panneaux qui forment une unique composition, semblant illustrer la suite du texte d'Isaïe. Cet enfant sera nourri de crème, de miel, pour savoir rejeter le mauvais et apprécier le bon. À gauche, de l'ensemble central, le panneau communément appelé le concert des anges est un feu d'artifice de couleurs, sous une architecture de colonnes surmontées des figures du prophète. Des gables or et ou rouges ornés de rinceaux se tiennent des anges sous lesquels se tiennent des anges aux formes multiples, dont ceux du premier plan jouent de la musique. Le corps couvert de plumes, les vêtements irisés confèrent à la scène une atmosphère irréelle. Un seul personnage est identifiable. Vous le verrez, c'est vraiment au centre, la jeune femme agenouillée à droite, qui est en train d'être couronnée par deux anges. Il ne peut s'agir que de la Vierge, qui, après sa mort, se fit couronner au paradis. Dans ce paradis, justement, cohabitent les anges du mal, reconnaissables aux fées qui tiennent les archers de leur instrument de musique à l'envers, et les anges du bien, entourant la Vierge. Ils attendent. Sur le panneau de droite, nous quittons le ciel pour la terre. Un délicieux jardin clos où la Vierge, avec son enfant, est assise sur un banc de pierre. Son enfant, fils de Dieu, s'est fait homme, comme le prouve le lit, le baquet et le petit pot pour sa bouillie qui sont à ses pieds. Le dialogue silencieux auquel on assiste, en fixant le regard, montre les liens intimes qui relient la mère à son fils. De nombreux détails ont leur importance. Ainsi, le linge déchiré où repose l'enfant renvoie en fait au périsonium, ce bout de tissu qui couvre les hanches du Christ lors de sa crucifixion, mais il permet aussi de ne pas oublier que les enfants étaient emmaillotés dans des linges usés qui ne risquaient pas d'irriter leur peau fragile. Pour tenter de comprendre ce panneau et tout le retable, il faut l'observer attentivement. Au-dessus de l'épaule de la Vierge, le visiteur peut apercevoir deux anges dans le ciel, un bleu et un rose. Ils sont en train de s'adresser à deux bergers, juste en dessous d'eux. Dans l'Évangile, cette scène ne peut être que l'annonce au berger qui survint juste après la naissance du Christ. C'est en effet cet instant que Grunewald a voulu représenter. Mais pas seulement, car si l'on regarde bien cet enfant dans les bras de sa maman, il n'est pas un nouveau-né, il est déjà grand, il joue avec un collier dont il égrène les perles de corail censées éloigner le mal. En fait, l'enfant, après s'être nourri de crème et de miel, sait maintenant rejeter le mauvais, le mal, et apprécier le bon, le bien, qui converge sur terre sous la forme d'anges descendant en procession des nuées où domine Dieu le Père. Et alors la résurrection, le panneau qui est à droite, est le point d'orgue de cette succession de quatre panneaux entièrement consacrés au triomphe de l'espoir. Loin des représentations antérieures, où le Christ était figuré debout près du tombeau, brandissant l'étendard, symbole de sa victoire contre la mort, Grunewald invente ici une nouvelle iconographie. Le Christ, dont les corps n'est que lumière, s'élève dans le ciel, sombre, étoilé, au-dessus des des gardiens du tombeau terrassé. Son linceul déployé se déroule et s'enroule de son corps vers le tombeau. La pièce de tissu blanche prend en s'élevant dans les airs toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, s'imprégnant des têtes de teintes de plus en plus chaudes. L'élévation du Christ s'inscrit dans un cercle luminescent, au contour parfait, émergeant de la nuit. Ainsi, le mystère de la résurrection rencontre celui de l'ascension, décrit dans l'Évangile. Puis, il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il bénit les apôtres, et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. En fait, le souffle et la force de Grünewald ne trouvent d'équivalent que dans la Vita Christi, la vie du Christ, du religieux allemand Ludolf le Chartreux au milieu du XIVe siècle. Il écrit à propos de la résurrection « Jésus-Christ ressuscita avec un corps qui possédait les quatre principales prérogatives de la grâce, la clarté, l'agilité, la subtilité et l'impassibilité. » Lorsque les volets dont les faces internes présentaient l'Annonciation et la Résurrection se refermaient, les pèlerins et malades découvraient en particulier la crucifixion la plus terrible jamais peinte par un artiste. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain rendez-vous.